In 500 meters, go straight, and then go straight.
Générique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Entre les pages, votre émission qui parle du monde des livres en Anjou. Il y a des moments où une question se pose. Comment ne pas faire de politique quand celles et ceux qui nous reprochent d'en faire systématiquement à leur encontre prennent des décisions qui nous mettent dans la nécessité vitale d'en faire. En psychologie, on parle de injonction contradictoire. En région Pays de la Loire, l'écosystème du livre politique dont s'enorgueillissait M. Alexandre Thébault à ce même micro il y a moins de 6 mois sera totalement détruit si le projet de budget présenté par Mme Christelle Morançais est approuvé le 19 décembre prochain. Ce sont 73% des crédits dédiés à la culture qui seront supprimés. Plus d'Alip, plus de Mobilis, plus de Maison Julien Gracq, plus de Festival Cultissime, plus de résidences d'auteurs, plus de festival du premier roman, plus de revue 303 et sa collection consacrée à l'Anjou. Et je ne fais pas l'inventaire total et je me limite volontairement au métier du livre. Alors oui, en disant cela aujourd'hui, eh ben oui, je fais de la politique. Et j'en fais encore plus en vous informant qu'une pétition a été mise en ligne sur la plateforme Change.org sous la bannière « La région Pays de la Loire annonce moins 73% au moins pour la culture ». Et j'en fais toujours en vous disant qu'à ce jour, ce sont plus de 90 000 personnes qui l'ont signée, cette pétition. Avis de tempête force 10 sur la culture en région Pays de la Loire. Mais retour maintenant à la littérature. Aujourd'hui, c'est une nouvelle rencontre avec Timothée de Meillet, à laquelle je vous convie. Timothée de Meillet, il est né à Angers, hélas. Les atours de Nantes étaient plus séduisants et il a succombé à leur charme. Mais il revient en terre d'Anjou aujourd'hui pour parler de son nouveau roman, Le tumulte et l'oubli. Bonjour Timothée.
Bonjour Luc.
Et merci d'être à nouveau venu jusqu'au studio de Radio G. Alors vous, le Nantais d'adoption, vous portez quel regard sur les prévisions budgétaires de la région?
C'est... Alors déjà merci de m'inviter, de me réinviter oui. Dans ce studio. Ces prévisions, ces annonces sont... catastrophique, à la fois pour la culture, mais aussi pour la jeunesse, les sports et pour aussi l'égalité homme-femme, puisqu'on annonce presque 90% de coupes. Et derrière ces coupes, derrière cette austérité budgétaire, ce qui est peut-être le plus glaçant, c'est le discours, justement. C'est ce discours politique. C'est la manière dont Madame Christelle Morançais vise explicitement tous ceux qui ne lui ressemblent pas, tous ceux qui pensent différemment d'elle. C'est cette idée de faire taire ceux qui sont différents. Et c'est ça que je crois le plus glaçant, c'est toute la rhétorique qu'il y a derrière. Cette rhétorique qu'on semble entendre de plus en plus, comme quoi l'art, la culture devraient être rentables, comme quoi il faudrait penser une forme d'uniformité de la pensée. Et c'est la culture dans toute sa diversité qui est menacée et dans tout ce qu'elle a justement et toujours eu de contradictoire, de poil à gratter, et ce qui est forcément nécessaire.
Eh bien, voilà qui est dit, et bien dit, et on va espérer que tous ces mouvements qu'on a vus, ces manifestations, cette pétition qui est signée, ces oppositions qui se manifestent, ces inquiétudes qui sont exprimées d'ailleurs par l'adjoint à la culture de la ville d'Angers, l'adjoint à la culture de la ville de Nantes, par exemple, qui ont fait une très longue déclaration relative à l'ONPL et à l'Opéra. On va espérer que peut-être c'était les informations qui manquaient peut-être à l'équipe de Christelle Morançais pour mieux cibler l'organisation budgétaire à venir. On va croiser les doigts. Timothée de Meillet, je suis de près votre travail. Et vous venez de publier aux éditions Asphalt un épais roman, Le tumulte et l'oubli. Il y a 2 ans, vous faisiez paraître Voyage au Liberland, plutôt un travail d'enquête. Le Liberland il y a 2 ans, maintenant les Sudètes, qu'est-ce qu'ils ont de si particulier ces territoires?
Alors, c'est vrai que depuis, même on pourrait remonter au roman précédent, le Demain la brume, qui se passait également dans les Balkans, il y a une forme de fascination chez moi, d'intérêt très marqué, très profond pour ces territoires d'Europe centrale, d'Europe balkanique, où se joue justement ce mélange des peuples, ces frontières qui sont finalement qui mettent une forme de création étatique à l'œuvre. Et donc justement dans ces textes, la question, les questionnements que j'aborde, c'est justement celle des frontières, de l'histoire. Comment se raconte l'histoire ? Comment se raconte l'histoire notamment quand les frontières évoluent, quand les peuples qui peuplent un territoire aussi changent à travers le temps ou évoluent à travers le temps ? Et donc c'est toutes ces questions un peu fascinantes qui moi m'ont toujours un peu alimenté à la fois dans mon travail de romancier, d'écrivain et dans mon travail de journaliste que j'ai envie de creuser. Comment se crée l'identité, comment se déforme l'identité, comment elle se façonne, comment elle se renforce et comment on crée justement en créant du nous, et bien systématiquement et un peu forcément, on crée du eux. On crée finalement aussi un ennemi contre lequel on se construit. Et voilà, c'est tous ces thèmes-là qui recoupent, je pense, la plupart de mes textes.
Alors, si j'ai cité ces deux derniers textes, c'est parce qu'il y a juste une similitude. C'est la taille des territoires concernés. Alors moi, j'avais noté dans mes notes, j'avais griffonné, j'avais mis sur mes notes des chiures de mouches sur une carte, parce que c'est ridiculement petit. Enfin, bon, alors le Liberland, n'en parlons pas, hein, c'est rien. Les Sudètes, c'est tout petit, en fait. Hein, c'est un territoire tampon entre l'Allemagne et la Tchéquie.
C'est ça. Alors, je ne saurais pas vous dire exactement la taille des Sudètes, mais c'est en effet ce qu'on pourrait appeler l'écorce de la Tchéquie d'aujourd'hui ou de la Tchécoslovaquie d'autrefois. Mmh. C'était ces terres qui faisaient une forme de tampon, comme vous disiez, ou de frontière avec l'Allemagne voisine. Et c'est des terres qui, historiquement, étaient peublées par des Allemands, par des populations allemandes, et qui vont devenir un enjeu principal après l'accession d'Hitler au pouvoir, puisque ces terres se trouvant en Tchécoslovaquie, Hitler va les instrumentaliser pour tenter de les faire revenir dans le Reich. Et donc ça va être une forme de chantage qui va jouer sur cette forme de chantage avec les pays occidentaux pour demander le retour de ces Sudètes dans le Reich allemand, puisqu'elles sont peuplées majoritairement d'Allemands. Et ça va être un des points de départ. Alors déjà, la conférence de Munich est un petit peu le souvenir qu'ont la majorité des Français des Sudètes, de nos cours d'histoire, peut-être des souvenirs un peu poussiéreux, et puis aussi un des points souvent d'entame de la Seconde Guerre mondiale.
Les défaitistes, hein, ceux qui ont accepté les accords de Munich sont considérés comme des défaitistes. Hein.
Exactement.
Alors on pourrait présenter comme ça, on va se dire, bon, c'est un bouquin d'histoire dont nous parle Timothée de Meillet. Non, de quoi ça parle plus précisément, le tumulte et l'oubli ?
Alors, le tumulte et l'oubli, je pourrais en donner de nombreuses explications.
Oui, j'ai bien l'impression. Oui.
Alors, c'est en effet, c'est un roman, comme vous disiez, assez ample. C'est un roman qui va se dérouler sur 80 ans, donc qui va commencer grosso modo en 1938, au moment justement de ces accords de Munich, au moment où Hitler réclame et obtient le retour des Sudètes dans le Reich allemand, et qui va se terminer aux alentours, à l'aube des années 2020, c'est-à-dire quasiment à l'époque contemporaine. Et donc ça va couvrir 80 ans et ça va être des destins de personnes, d'individus entremêlés, entrelacés, qui montrent justement combien les régimes successifs qui se succèdent, alors le nazisme, puis l'arrivée des troupes russes, des soviétiques, puis ensuite l'arrivée des communistes, avant ensuite les plusieurs phases des communistes, l'arrivée des chars de l'armée rouge, le retour de l'économie de marché, du libéralisme dans les années 90, et comment chaque régime arrive finalement avec tumulte, avec effusion. Les peuples sont souvent avec cette effusion de joie, de libération, et très vite repart dans une forme d'oubli. Et donc ça raconte à la fois à travers ces grands régimes le destin de toutes ces personnes qui ont incarnent chacun, chacune, une petite partie, une petite histoire dans la grande histoire ou un de ces régimes, et puis d'autres qui sont finalement transversaux, qui couvrent les différentes périodes et qui permettent de donner un petit peu de latitude sur tous ces changements de régime et la manière dont les régimes se sont succédés dans ces régions-là. Une sorte de laboratoire des idéologies et des dogmes politiques.
Alors à nouveau, là on reconnaît l'homme qui a fait l'IEP, hein. Donc il conceptualise là, mais on va donner de la chair à ce bouquin. Alors il y a l'histoire de Sieglind, l'Allemande, et de Mirko, le Tchèque. Eux, ils sont amoureux au début. Ils sont amoureux d'ailleurs tout le long du livre. Il y a l'histoire de Ivetka, la Tzigane. On suit aussi Kubitschek, Martin Gabor, Erika, Teresa, la fille d'Erika, et son compagnon toxique Milan. Le roman est foisonnant. Il y a combien de personnages en tout là-dedans? Parce que c'est infini. C'est presque c'est Matryoshka. Ça s'ouvre de partout. Il y en a toujours qui surgissent.
Alors, je n'ai pas compté le nombre exact de personnages qu'il y a dans le livre. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y avait au départ trois grands personnages. Il y avait, vous l'avez dit, Sieglinde, qui est le personnage qui parle de ces Sudètes allemandes et qui va raconter l'histoire des Allemands des Sudètes, des régions qui étaient peuplées à 80% d'Allemands, qui ont adhéré massivement au nazisme, voté massivement pour Hitler. Et cette Sieglinde, c'est une jeune fille de 14-15 ans au début et qui tombe amoureuse d'un Tchèque, à une époque où cet amour entre Allemands et Tchèques est quasiment impossible. Et elle est, alors peut-être qu'on y reviendra, inspirée de manière très libre de ma grand-mère, qui était, parce que moi je suis d'origine allemande, et mes deux grands-parents étaient des Allemands des Sudètes. Et c'était aussi un des points de départ de ce livre, c'est que je voulais raconter d'une certaine manière la tragédie dans l'horreur de ces Allemands des Sudètes. Alors pourquoi tragédie dans l'horreur? Parce que finalement, ces populations-là, qui ont été peut-être celles qui ont adhéré le plus au discours nazi, qui ont été le plus trempées dans cette forme d'hitlérisme, vont se retrouver, après la Deuxième Guerre mondiale, expulsées dans leur totalité. On parle de 3,5 millions d'Allemands des Sudètes qui sont expulsés, ce qui était le destin de mes grands-parents, et ce qui est finalement un destin qui n'a pas voix au chapitre, ou en tous les cas dans l'histoire, et on a envie de dire à raison, parce que qui a envie de pleurer sur le sort des Allemands en 1945? Pas grand monde. Et donc cette jeune Sieglinde va raconter le destin de ces Allemands des Sudètes après la Deuxième Guerre mondiale. Et on a ensuite un deuxième personnage principal qui est celui d'Ivetka, puisque ces régions, il faut s'imaginer, vont se retrouver vides. C'était des régions qui étaient peuplées à 80% d'Allemands, qui sont tous disparus, et il faut repeupler ces régions. On va les repeupler avec qui? Avec des tziganes notamment, qui viennent de Slovaquie. Et dans l'idée de créer de casser les liens culturels des tziganes et de venir servir de travailleurs modèles pour le régime socialiste qui se construit. Ça va être le deuxième personnage, cette deuxième grande trajectoire, cette migration des Slovaques, des Roms slovaques de la Slovaquie vers ses Sudètes. Et le troisième personnage, c'est une descendante, c'est une troisième génération, j'ai envie de dire, de ces Roms de Slovaquie, Teresa, qui se retrouve dans les années 90, à l'époque où les frontières s'ouvrent. On a le libéralisme, l'économie de marché qui revient. Et qu'est-ce qui va se produire? Les Allemands vont revenir en masse. Et cette Teresa va donc incarner, on va dire, cette ironie de l'histoire qui fait que les Allemands, dont on a voulu régler leur compte, qu'on a voulu déplacer à jamais, vont revenir en masse dans les années 90, et pour des raisons économiques principalement. Et ça va être cette jeune fille, on va suivre son déclin, une sorte de chute aux enfers, de lente chute aux enfers à travers les années 90. Et tous les autres personnages viennent finalement tisser le fil entre ces trois personnages-là.
C'est bizarre, moi j'avais mis aussi Mirko. Hein.
Alors oui.
Moi j'avais mis Mirko parce que Mirko, il est là en permanence discret. Hein. Il est suggéré, il existe. Il a une vie d'une tristesse à mourir parce qu'il attend Sieglinde. Enfin, il l'attend peut-être plus d'ailleurs. Mais en tout cas, elle est là. Et il va écrire. Alors lui, il tient un journal extraordinaire, un journal de fou. Il écrit son journal dans des petits carnets et ce journal va recouvrir les murs de son appartement. C'est pour ça que moi, je trouvais qu'il était intéressant, ce personnage de Mirko, parce qu'il est là en toile de fond un peu... témoin, en fait, voilà, c'est un témoin qui observe tout ça.
Exactement. C'est un des rares personnages qui va traverser toutes les époques. Il est là du début à la fin du livre. Et il nous sert finalement de personnage témoin, de celui qui va, à la différence des autres personnages qui sont finalement pieds et poings liés avec leur époque, qui se retrouvent finalement les sujets, les victimes de leur temps, balayés par les vents idéologiques, par les conséquences des changements de régime. Mirko, lui, reste une forme de socle qui va suivre les époques, qui va observer, être témoin de tous les changements. Et il est, en ce sens-là, en effet, vraiment important dans le livre, ce personnage de Mirko. Et c'est quelqu'un qui est obsédé par la mémoire. Il a vécu cette histoire d'amour avec Sieglinde, une histoire qui a duré quelques années et qui fait que...
Et qui n'a duré qu'un baiser. Hein.
Et qui n'a duré que, voilà, qu'un baiser. C'est, oui. C'est très chaste comme histoire. Et surtout, ce qui va lui... une forme de traumatisme qui va l'accompagner, c'est qu'il va voir Sieglinde, son amoureuse, dans la rue, alors qu'elle s'apprête à se faire déplacer, déporter, et il va détourner le regard. Et cette, d'une certaine manière, cette trahison va l'accompagner pour le restant de ses jours et il va tenter dans une quête quasiment donquichotesque, ou en tous les cas enfin, totalement déraisonnable. Il va tenter de recopier, d'écrire dans des carnets toute l'histoire pour se remémorer dans le moindre détail, pour épuiser, pour faire un inventaire le plus complet possible de toute son histoire avec Sieglinde. Et ça va l'occuper pour le restant de ses jours. Dans une quête contre l'oubli, alors même qu'il dit « à ma mort, brûlez tout ça ». Donc finalement, c'est une quête qui est totalement vaine également. Et oui, c'est un personnage assez crucial dans le texte.
Et on l'imagine bien appuyé au comptoir du bar, servant ses bières, triste, gris, triste à mourir, mais pensant toujours avec cette histoire d'amour en fait, qu'il fait brûler, hein, qu'il tient debout, qu'il fait vivre, en fait. Hein, ce personnage est véritablement étonnant. Donc, vous l'avez dit, ça couvre 80 histoires. C'est quasiment une épopée. Hein. Ce qu'il y a, il y a une ampleur dans le roman. Il y a un nombre de personnages que moi, je vois comme considérable. Est-ce que la forme qu'a prise ce roman, elle était inhérente au sujet initial, ou alors c'était de toute façon ce projet-là. Vous vouliez écrire ça sous cette forme-là, comme ça.
Ça s'est construit en plusieurs étapes. Comme je vous disais tout à l'heure, au départ, on était plutôt sur trois personnages qui incarnaient trois époques et qui incarnaient trois régimes, quelque chose d'assez structuré. Et puis finalement, il manquait du lien entre ces personnages. Et alors, il me le manquait, c'était une forme de remarque qui s'est faite naturellement. C'est-à-dire que je ne me suis pas dit, il manque du lien. C'est aussi que tous les personnages secondaires, on parlait de Mirko, les conjoints des uns des autres, les amis des uns des autres, ont commencé à prendre leur envol et avoir aussi un rôle, à avoir aussi une identité propre et qui se sont déployés aussi pendant l'écriture du livre. Et qu'il m'a semblé qu'en les tissant de manière plus large, ou qu'en les faisant prendre de l'ampleur, qu'en leur donnant plus de place dans le livre, il me permettait justement de tisser ce qui n'était auparavant peut-être plus que trois nouvelles ou que trois histoires indépendantes de trois époques différentes, et justement de resserrer les liens entre les différents personnages. Et c'est également le rôle qu'a pris la ville dans ce texte, et peut-être qu'on y reviendra.
Nous allons en parler de cette ville, parce qu'elle m'a posé bien des soucis. Parce que dans ces personnages, il y en a deux. Alors, ils ne sont pas plus importants les uns que les autres, mais je les cite parce qu'ils illustrent assez bien. Il y a Kubitschek et Gabor, qui sont deux amis de Mirko, mais qui vont traverser à leur manière l'histoire en trahissant, en se compromettant, en essayant de se sauver. Et je trouve que, effectivement, la manière dont vous les faites vivre, dont vous nous les faites voir, ils nous permettent de comprendre l'histoire dans laquelle ils sont. Et quand je parle d'histoire, c'est la grande histoire. C'est-à-dire quand on est... Kubitschek devient, si ma mémoire est bonne, flic. Enfin, il a un énorme pouvoir. Il prend un énorme pouvoir dans ce village, assez inattendu. Et puis, il va subir ce que tous les hommes de pouvoir... il va le perdre, ce pouvoir. Je trouve que, en nous racontant par l'entrée des personnages, on comprend, on arrive à vivre cette histoire. 80 ans, c'est quand même, ça a dû être un travail documentaire considérable.
Ça a été un travail documentaire, en effet, assez long, assez fastidieux.
Fastidieux.
Ça a été compliqué. Ouais. Ça a été parfois. Il a fallu. Je pense qu'il y a une, on va dire, dans ma manière d'écrire, lorsque j'écris, j'ai un besoin d'arriver à me placer suffisamment à la place de mes personnages, ou en tous les cas d'avoir l'impression de maîtriser suffisamment ce dont je parle pour pouvoir être à l'aise à raconter cette scène-là. Et je n'avais jamais dans mes textes auparavant, j'avais des textes qui s'étaient passés au début des années 90, où j'étais jeune, donc j'avais pas des souvenirs ou une maîtrise de la situation très claire, mais en tous les cas, c'est des années que j'avais vécues et c'était plus facile d'aller creuser dans les archives pour finalement retracer, retravailler, décrire toutes les ambiances, les discussions, même les odeurs, les textures, tout ce qui fait finalement les spécificités presque sensorielles même d'une époque. Et quand on parle des années 50 en Tchécoslovaquie, c'est plus compliqué d'arriver à se placer dans ce climat-là. Et donc, il a fallu vraiment aller creuser, faire un travail d'archives qui a été, en tous les cas, assez long, assez complexe, et notamment en allant éplucher alors des journaux locaux, des petites gazettes locales qui parlaient de souvent de sujets très anodins, de sortes d'épiphénomènes ou d'épidébats qui, trois jours plus tard, étaient déjà périmés, mais en tous les cas, qui permettaient bien de se replacer dans une forme d'état d'esprit d'une époque. Et donc, ça a demandé voilà, beaucoup de recherches, beaucoup d'entretiens avec des personnes qui pouvaient témoigner d'une époque, qui pouvaient témoigner de différentes choses que je raconte dans le livre. Donc voilà, tout ce travail de recherche.
Alors pour entrer dans la chair, ben moi je vous propose de lire un extrait de ce roman.
Une semaine plus tard, le chantier se mit en branle. Ce fut une métamorphose comme Yedlov n'en avait jamais connue. Mirko assista au défilé des pelleteuses et des tractopelles et put témoigner de la destruction du quartier où il avait grandi. Les dents d'acier des machines broyaient la terre comme la pierre qui laissait échapper d'affreux hurlements. Après quelques semaines, il ne restait du faubourg de Dolny Brana que des gravats et un épais nuage de poussière. Le paysage ressemblait à des tranchées couleur mâche-fer. Un horizon dévitalisé sur lequel jamais rien ne semblait pouvoir repousser. Tout son passé avait été rasé. La pâtisserie de ses parents et leur appartement à l'étage. Sa rue mal pavée qui serpentait en s'élevant dans les premières pentes des sommets frontaliers. Son école, la chapelle. Les anciens habitants furent relogés plus loin dans des baraquements temporaires, en attendant l'érection des premières tours d'immeubles qui suivraient.
Merci. Eh bien, je propose une pause musicale.
Déçu, elle me dit tu devines, je ne suis pas assez rapide. Conduis-moi jusqu'aux oursins, il pique le train pour trois fois rien. Conduis-moi jusqu'aux oursins, il pique le train pour trois fois rien. C'est quoi? Oh, c'est le chasseur qui tue, qui cherche la tortue. Elle me dit tu l'as vu, il me veut soit qu'il tout cru. Conduis-moi jusqu'au jardin, Docteur Pussy c'est mon voisin. Conduis-moi jusqu'au jardin de Capucci, c'est mon voisin. C'est au bas la mer qu'on danse à volo. Si le temps gâte les nerfs, tombe la terre à l'eau. C'est au bas la mer qu'on danse à volo. Si le temps gâte les nerfs, tombe la terre à l'eau. Qui suit le cachalot. Elle me dit qu'elle tuine. Le chasseur en veut à mon huile. Conduis-nous jusqu'au matin. Peut-être encore nous verrons demain. Conduis-nous jusqu'au matin. Peut-être encore nous verrons demain. C'est au bas la mer qu'on danse à volo. Si le temps gâte les nerfs, tombe la terre à l'eau. C'est au bas la mer qu'on danse à volo. Si le temps gâte les nerfs, tombe la terre à l'eau. C'est l'oiseau, je vois qui pique de haut en bas. Il me dit, tu devines, je ne trouve plus ce dont je m'ennuie. Conduis-nous jusqu'aux humains, peut-être encore nous verrons demain. Conduis-nous jusqu'aux humains, peut-être encore nous verrons demain. Nous verrons demain. Oh. Conduis-nous jusqu'aux humains, peut-être encore nous verrons demain. C'est en bas la mer. Si le temps gâte les nerfs, tombe la terre à l'eau. C'est au bas la mer qu'on danse à volo. Si le temps gâte les nerfs, tombe la terre à l'eau.
ecosystems, food security, jobs, economies, and coastal cultures all depend on it.
Vous venez d'écouter Phil Devaille, un artiste que j'aime bien. Il a chanté Le bas la mer, un titre écrit par Michel Mickey Humbert, que j'ai réussi ici comme auteur et que je salue tout particulièrement aujourd'hui. Vous écoutez Entre les pages et ce n'est que sur Radio G, fréquence 101.5. Aujourd'hui, Timothée Demeyer est venu dans le studio pour nous parler de son nouveau roman Le tumulte et l'oubli. On a terminé la première partie sur une lecture, donc sur un extrait, et ça c'était pour donner un peu de la chair à tout ce dont on est en train de parler. Vous avez commencé à l'évoquer dans la première partie. On a situé le cœur de ce roman dans les Sudètes. Moi je suis prêt à parier que personne aujourd'hui n'est capable de situer géographiquement ce territoire sur une carte. Enfin, je mets ma main au feu, j'en suis, et je suis sûr de gagner. Vous avez commencé d'en parler. Pourquoi les Sudètes ?
Alors, pourquoi les Sudètes ? Déjà, principalement pour des raisons personnelles. C'est-à-dire que je suis d'origine allemande, ma mère est allemande, mes deux grands-parents sont des Allemands, et sont ce qu'on appelait ces Allemands des Sudètes. C'était des Allemands qui habitaient dans ces régions depuis plusieurs siècles, et comme je disais, qui ont été déplacés à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ce qui était le destin de mes grands-parents. Et j'ai grandi avec cette histoire-là en moi, bien que ça ait été une histoire qui ait toujours été totalement secrète, cachée, tue. On ne parlait pas de ça, on ne parlait pas du passé, on ne parlait pas de ce qui s'était passé pendant la Deuxième Guerre mondiale et encore moins après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, tout ça, ça s'est révélé alors que j'étais étudiant à Prague. J'étais en 2006, j'étudiais à Prague et ma grand-mère est décédée. Et c'était finalement le premier moment où j'aurais pu parler avec elle cette langue que je pensais qu'elle parlait, ce qui n'était pas le cas. Et donc, je me suis rendu dans son appartement avec ma mère, je l'ai aidé à vider cet appartement et on est tombé dans la boîte aux lettres sur une lettre, une carte postale qui avait été envoyée par un homme. On ne savait pas qui c'était exactement. Seulement que la carte venait de Tchéquie et elle souhaitait joyeuse Pâques à ma grand-mère. Et ma mère a été étonnée, on a cherché dans l'appartement de ma grand-mère et on est tombé sur toute une collection de cartes, de lettres que les deux s'écrivaient depuis presque 60 ans, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'était un amour de jeunesse entre ma grand-mère et un jeune Tchèque, et ils avaient continué à s'écrire des lettres, des cartes, alors que c'était plus de l'ordre de la passion, c'était simplement de se souhaiter joyeux Noël ou joyeuse Pâques. Et ma mère a répondu à cet homme, lui a dit que ma grand-mère était décédée, et lui a aussi dit que le petit-fils, étudiait à Prague et lui a donné mon numéro de téléphone. Et quelques semaines plus tard, j'ai reçu un coup de fil, cet homme m'a appelé, et il m'a invité dans cette ville d'où venait ma grand-mère, dont j'avais jamais entendu parler, à passer une journée avec lui. Et je m'y suis rendu à l'époque plus par curiosité, amusé, que véritablement par intérêt biographique pour ma famille. Et j'ai passé une journée un peu hors du temps avec cet homme qui pleurait à chaudes larmes, qui semblait presque plus triste que moi du décès de ma grand-mère, et qui m'a montré tous les lieux où elle avait grandi, sa maison, l'endroit où il s'était pour la première fois embrassé. Et puis il m'a beaucoup fait boire d'eau de vie. Donc c'est vrai que je me souviens assez peu de cette journée avec lui. Et donc on est reparti, je suis reparti le soir à Prague, voilà, sauf que j'avais 20 ans, 21 ans, et c'était des souvenirs qui m'intéressaient assez peu et que j'ai fini par oublier tout ce qu'il m'avait raconté. Et c'est que des années plus tard que je me suis dit que cette histoire, il y avait quand même quelque chose d'assez fort et que j'avais envie de raconter quelque chose qui parlait à la fois de l'histoire de ces régions, de l'histoire de comment l'histoire justement arrive à briser une union comme celle-ci, arrive à créer des frontières au sein même de l'amour et de faire quelque chose de finalement d'un peu plus romanesque, d'un peu plus de cette histoire que je trouvais assez belle. Et en imaginant justement ce Mirko, comme le Mirko de mon livre, quelqu'un qui pendant toute sa vie n'avait vécu que par le souvenir de cette femme-là.
Mais voilà. C'est dingue, alors il n'y a aucune fiction dans ce bouquin ?
Alors il y a...
Ben non, mais c'est
fou, ça. Alors, il y a une partie de fiction, notamment tout ce qui... Alors, il y a en effet un personnage dans le livre qui est assez inspiré de moi, de ce que j'ai vécu, parce qu'il me semblait que cette histoire était suffisamment forte pour qu'elle fasse partie du livre. Après, tout ce qui était l'histoire de ce Mirko, ou alors l'histoire de Sieglinde, qui serait, on va dire, le personnage inspiré de ma grand-mère, c'est totalement fictif. Parce que je ne connais rien de leur vie, je connais rien de leur histoire. Et puis surtout, parce que ça me permettait de donner plus de liberté dans la création littéraire. Le fait de m'attacher trop à des dates, à des contraintes autobiographiques de personnages, m'aurait un peu trop contraint dans l'écriture. Et donc finalement, ça me permettait d'avoir plus de liberté de création et d'écriture.
Les lecteurs témoigneront d'eux-mêmes, mais que vous le vouliez ou non, ce que vous venez de raconter sur votre histoire personnelle, enfin moi je l'ai lu en lisant votre livre. Hein. Enfin vous m'avez rien appris. En fait vous m'avez rien appris sur votre histoire.
Non, en effet, oui. Tout ce que je viens de raconter, c'est un des personnages qui. Alors, j'ai un peu modifié parce que de mon personnage, j'ai fait un personnage féminin, ce qui me permettait de prendre peut-être un peu plus de distance avec moi-même, de tendre un miroir peut-être face à moi. Mais en effet, oui, ce passage-là est assez fidèlement décrit à ce que j'ai vécu.
Alors ça, c'est le Sieglinde qui est donc votre grand-mère dans la réalité. Il y a aussi ce personnage d'Ivetska, qui est un personnage très particulier. C'est une tzigane et qui va s'émanciper. Qu'est-ce qui fait que vous avez pris cette option-là, décidé de donner à ce personnage cette dimension-là ? C'est-à-dire qu'elle part d'un village. Alors, c'est des villages peut-être de romans, parce que quand on lit la description du village dans lequel elle a vécu, on a l'impression de l'avoir connue, quoi. Au bout d'un chemin, des maisons, de la pluie, de la boue, des coqs et des poules qui doivent courir partout. Donc, ce parcours de cette Ivetska qui part de ce village, donc sans aucune chance, elle est tzigane, elle n'a aucune chance au départ. Et pourtant, elle va s'extraire de tout ça. Qu'est-ce qui a présidé à cette option-là, à ce choix-là de faire évoluer ce personnage comme ça ?
Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, parler de ce village en Slovaquie, le livre s'ouvre sur Ivetka, enfin, le personnage d'Ivetka apparaît dans le livre en 1945. On est à la fin de la Deuxième Guerre mondiale et les tziganes qui vivaient principalement en Slovaquie, dans la partie slovaque de l'ancienne Tchécoslovaquie, était très largement persécuté par les gardes de Hlinka, qui était une sorte de régime proto-fasciste, pro-italien. Et donc, ils se réfugiaient dans les endroits totalement inaccessibles. Ils vivaient totalement cachés des hommes, pour ne pas qu'on puisse les trouver. Et ils n'étaient même pas au courant que la guerre était terminée au moment de la fin de la guerre. Et on va voir rapidement, comme je disais, les communistes, le régime communiste et les partisans vont vouloir utiliser ou en tous les cas rameuter cette tzigane dans ces régions de Bohême pour servir comme travailleur et dans l'idée aussi de casser les codes, les cultures. Et donc, elle parle, Ivetka arrive à ce moment-là, cette jeune de 14 ans, et elle va incarner cette trajectoire des Roms, cette grande migration des Roms qui vont quitter la Slovaquie pour aller repeupler ces terres laissées vides par les Allemands. Ça, c'était la première chose. Ce personnage d'Ivetka, elle est très inspirée d'une écrivaine rome qui a livré son témoignage dans les années 70, qui s'appelle Ilona Latskova, et un livre qui est publié en français, « Je suis née sous une bonne étoile », et qui raconte justement la trajectoire de cette émancipation de cette femme rome, ce que j'ai librement adapté dans le livre, et qui va parler de choses qui me semblaient intéressantes, qui va à la fois parler de la manière dont les Roms ont été traités par le régime communiste, puisqu'ils étaient pour la première fois quasiment de leur histoire traités à égalité et non pas discriminés, à une seule condition, c'est qu'ils renoncent à tout ce qui faisait leur différence. C'était la condition de leur intégration. Et donc, ça racontait ça, ces politiques plutôt féministes, mais à la fois au sein de la communauté rome, ce qui restait d'une certaine forme de patriarcat. Et donc, il me semblait qu'il y avait plein de thématiques qui étaient très intéressantes à travers ce personnage, à travers cette époque communiste à traiter, en faisant justement la trajectoire d'émancipation ou de libération, d'une certaine manière, d'une femme slovaque. Une trajectoire assez exceptionnelle.
Trajectoire exceptionnelle, puisqu'elle fait des études, elle va à l'université, elle devient scientifique. Elle est accusée de compromission avec son professeur, parce que c'est pas possible. L'ascension de cette personne devient gênante. Au bout d'un certain moment, même son livre est contesté. Enfin, on n'est pas sûr qu'elle l'ait écrit. Enfin, il y a tout ça dans ce bouquin-là. Effectivement, que vous mettiez ça comme ça en perspective avec ce personnage qui a existé. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est que elle reste tzigane malgré tout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle va retourner, elle va aller revoir ce village dans lequel elle a vécu, qu'elle avait peut-être presque oublié, parce qu'elle a vécu presque en tant qu'apparatchik pendant une longue période de sa vie. Elle a vécu comme un apparatchik, quoi.
Tout à fait, oui. Elle vit, on va dire, et c'est d'ailleurs ce qui va lui être reproché. C'est une forme de compromission avec le régime communiste. Et d'ailleurs, ce qui fera qu'elle sera finalement, on va dire, chassée, ou en tous les cas, elle sera considérée comme persona non grata à partir du moment, déjà au sein du régime communiste, lorsque on voit une évolution dans le régime communiste, et puis d'autant plus dans les années 90, où elle sera vue comme une suppôt du régime communiste, et donc à liquider d'une certaine manière. Et elle va retourner justement, oui, dans ce village-là, où on voit bien son regard, enfin voilà, le regard à travers ses yeux, de l'évolution, des changements de son statut, et du statut sur place, en tous les cas, de son adhésion au régime communiste, qui veut dire ce côté assez plus matérialiste, ou en tous les cas très contre ces traditions, toutes ces superstitions qui ont encore cours au sein de la communauté tzigane. Et donc on voit bien ces deux mondes qui s'affrontent et qui se font face.
Vous m'avez mis en difficulté, et je vais vous expliquer pourquoi. Quand on commence votre livre, quand on lit votre livre, d'abord on est habité par ce livre, ça c'est clair, il colonise notre esprit, parce qu'on est tellement bouleversé par ce parcours de Sieglinde, par Ivetka, par la fille Teresa, il y a tout cet ensemble qui fait qu'on est habité par ce livre-là, et puis on vit dans ce village, donc dans cette petite ville, Jedlov, Tannberg, donc Tannberg, autant de l'Allemagne, Jedlov, autant des Soviétiques. Vous le décrivez, vous nous emmenez dans les rues, on descend la rue, on passe le pont, on arrive dans l'autre quartier, là, dans le quartier où habite Mirko. J'ai donc, moi, pris les plus belles cartes du monde, j'ai exploré, j'ai pris mon atlas, j'ai exploré centimètre par centimètre la frontière allemande pour voir si je trouvais. J'ai pas trouvé, il n'existe pas ce village. Jedlov, ça n'existe pas.
Non, c'est une ville de fiction, c'est une ville fictive.
Elle est réussie. Hein.
C'est une ville, pour vous dire, au départ, je voulais en faire le personnage principal du livre. J'avais été très inspiré par un livre de Diane Meur qui s'appelle « Les vivants et les ombres » où elle raconte une grande fresque historique aussi qui est racontée à travers les yeux et le regard d'une maison. Une maison située à l'est en Galicie, grosso modo, à l'est de la Pologne actuelle, à l'ouest de l'Ukraine aujourd'hui. Et je trouvais ça passionnant, la manière dont elle racontait, elle personnifiait cette maison qui allait, à travers ses yeux, raconter les changements d'habitants de la maison et donc le changement des époques. Et j'avais envie un peu de faire la même chose avec cette ville qui aurait été le personnage principal. Et j'ai commencé d'ailleurs en écrivant le roman comme ça. La ville parlait à la première personne et elle racontait son évolution. Le problème, c'est que le livre m'emportait souvent en dehors de cette ville. J'étais parfois à Prague, j'étais parfois en Allemagne et j'avais plus de mal à justifier l'absence de cette narratrice tout à coup de la ville dans ces moments-là. Et donc, j'ai finalement fait le choix d'en faire un personnage à part entière qui parlait plus à la première personne, mais qui avait toujours cette importance cruciale. Et j'en ai fait une ville fictive. Au départ, je voulais faire la ville d'où venait ma grand-mère, et puis j'étais trop limité par son emplacement géographique, par le fait que si elle était située là, l'exil de mon personnage ne pouvait se passer que par ici, et puis finalement j'étais très lié à l'histoire de la ville elle-même, alors que j'avais envie de raconter plein de destins de plein de villes différentes, notamment dans l'extrait que j'ai lu tout à l'heure. C'est l'exemple très typique d'une ville qui s'appelle Most en Tchécoslovaquie et qui a été totalement rasée parce que sous la ville se trouvaient des minerais de charbon. Et donc, on a rasé totalement la ville. On a seulement gardé la vieille église médiévale qu'on a déplacée de 900 mètres pour créer une mine à la place d'où se trouvait la ville, avec cette idée de construire de l'oubli. Voilà, donc c'est en fait, j'ai pioché dans les destins, dans les destinées, dans les histoires de plusieurs villes pour en faire une ville fictive. Et j'étais à tel point moi-même habité par cette ville. Elle avait tellement pris place dans mon esprit, je me l'étais tellement représenté que j'avais commencé à dessiner, enfin pas commencé, j'avais totalement dessiné sur des brouillons de papier des plans entiers de la ville avec des rues, avec les noms de rues, avec où passait la rivière, où était la frontière, où était le poste de douane, tel ou tel café, troquet, parce que c'est des lieux très importants dans le livre, c'est des lieux aussi qui traversent toutes les époques, les bistrots. Et donc j'en ai fait un véritable personnage dans le livre. d'autant plus j'avais besoin de ça parce que c'est une ville qui va énormément évoluer à travers le temps. Elle me permettait aussi de montrer comment chaque régime qui arrive au pouvoir veut aussi modeler l'espace, veut modeler à la fois par les noms, par la dénomination des choses, puisque on va renommer, puisque les noms, c'est aussi fondamentalement idéologique, mais aussi par les grandes constructions, par les grandes réalisations. On veut laisser une trace dans l'histoire, ce qui est une spécificité très humaine et très idéologique, certainement.
Alors, moi, je me suis fait piéger, donc j'ai cherché. Et à nouveau, en vous écoutant en parler, l'illustration de la couverture, qui est une peinture des Gonchil, avec des maisons peinte à la manière des Gonchileux. Ceux qui connaissent les Gonchileux verront de quoi je parle. Ceux qui ne connaissent pas iront voir et comprendront. C'est le tableau qui s'appelle Die Kleine Stadt 5, Krumau Hausbergen. Donc, c'est une ville en Tchéquie. Je vous entends parler. Et en fait, moi, je vous l'ai dit tout à l'heure hors micro, pour moi, c'était cette ville-là précisément qui était le lieu de l'action. Juste anecdote, c'est comme ça qu'écrivait Hervé Bazin. Quand Hervé Bazin écrivait ses romans, il dessinait les lieux qu'il allait décrire dans ses romans. On voit de très beaux dessins de lui, avec, par exemple, quand c'est une ville, les noms des rues, il y a telle épicerie, parce que quand ces personnages doivent tourner à gauche, ils doivent tourner à gauche réellement, et ça doit être dans la réalité de la fiction. Donc voilà, c'est exactement la même problématique. On a parlé de cette ville. Dernière question. Je me mélange dans mes notes, mais c'est pas grave. Je vais y aller quand même. Est-ce que pour vous, ce territoire des Sudètes, est-ce qu'il a des résonances dans notre 21e siècle, l'histoire, le vécu de ce territoire-là? Est-ce que ça résonne encore aujourd'hui? Est-ce que des territoires vivent la même histoire d'irrédentisme, d'une certaine manière?
Alors, c'est bien sûr une des raisons qui explique aussi pourquoi j'ai écrit ce livre. C'est qu'il me semblait, pendant l'écriture, en tous les cas, je ne sais pas si c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, mais en tous les cas, pendant l'écriture, j'y ai trouvé énormément de parallèles avec ce qu'on vit aujourd'hui. Mmh. Des parallèles, déjà, premièrement, parce qu'on a beaucoup entendu dans les discours politiques, notamment même chez Emmanuel Macron, des liens de plus en plus forts avec la conférence de Munich, avec cette idée, notamment dans le rapport avec la Russie, avec Poutine. Le livre aussi s'ouvre sur un discours d'Hitler qui a été, alors j'ai pas mis le discours en entier, mais en tous les cas quelques parties du discours, et qui faisait un écho assez glaçant avec le discours le manifeste qu'a pu écrire Vladimir Poutine justement avant l'invasion de l'Ukraine. Et on a en tous les cas à travers ce livre-là, à travers ce texte-là, ce qui en tous les cas est marquant pour moi et ce qui est la raison pour laquelle j'ai écrit ce texte, on montre véritablement le fléau de toute forme de nationalisme, de toute forme. J'entends vraiment ça au sens large, au sens vraiment quasiment idéologique ou dogmatique, ou en tous les cas, chaque régime qui veut s'approprier un territoire, qui veut s'approprier un espace. Des espaces qui ont toujours connu une forme de diversité, qui ont toujours connu une forme de cohabitation. Et à partir du moment où on veut justement faire un territoire sien, on est forcé de créer justement de la dissension et des formes de rupture dans la société. Et c'est, il me semble, une des choses qu'on retrouve avec les Sudètes, mais qu'on peut retrouver dans beaucoup de lieux comme les Sudètes.
Alors moi, effectivement, on ne peut pas ne pas penser à la Crimée, puis au Donbass. Quand on lit ce livre, vous nous racontez l'histoire par les yeux des personnages, et on vit donc dans notre chair quasiment ce par quoi ils passent, et c'est terrible. Je vous remercie d'être venu jusqu'à nous, Timothée de Meillet. Je suis ravi de vous avoir à nouveau rencontré, d'avoir à nouveau échangé avec vous. Je rappelle le titre de votre livre, Le tumulte et l'oubli, publié par les très bonnes éditions Asphalte, et je le recommande. Au revoir.
Au revoir, et merci de m'avoir invité.
Mon amour, aujourd'hui, je me sens perdue, c'est peut-être l'ennui. Je me suis dit qu'on devrait marcher chaque jour au moins 1000 pas. en amour, visons bien haut. Voyons trop grand pour être sûr de décoller. Mon amour, toutes nos fictions sont à nos trousses. Nos airs les plus doux sont seuls à nous rêver. Et si l'on doit redescendre, quitter la fusée, nous le ferons ensemble, mon amour. Voyons trop haut, voyons trop grand pour nous, pour être sûrs d'en vivre assez. À la longue vue, mon amour, je nous ai vus plus grand que nous. Mon amour, faut tracer vers je ne sais où, où nous n'avions pas prévu d'aller. Nos heures les plus douces sont celles à nous rêver. Et si l'on doit redescendre et quitter la fusée, nous le ferons ensemble, mon amour. Voyons trop haut, voyons trop grand pour nous, pour être sûrs d'en vivre assez. Lançons-nous, mon amour, bien au-dessus de l'horizon.
Laisser résonner le piano jusqu'au bout. C'était Mon Amour par le groupe Chris Cornac. C'est comme ça, c'est pas objectif. J'adore ce groupe et j'adore cette chanson. C'est un titre qui est sorti au mois d'avril dernier. Vous écoutez toujours Entre les Pages, votre poste de TSF est toujours branché sur Radio G, fréquence 101.5. Et c'est maintenant l'heure de la chronique lui est approuvée. Et la chronique aujourd'hui, je l'ai enregistrée la semaine dernière. Et puis je me suis dit, non, c'est trop bête. Astrid, elle est juste à côté, à 3 mètres, celle qui parle dans cette chronique. Alors, je l'ai invitée à la faire en direct, cette chronique. Bonjour, bonjour Astrid.
Bonjour.
Alors dites-nous, qui êtes-vous, Astrid?
Alors, je suis en service civique chez Radio G, où je suis chargée de communication pour l'émission J'ai la ref.
La littérature, vous connaissez bien, puisque vous avez fait des études dans ce sens.
Exactement, j'ai une licence de lettres que j'ai fait à l'Université d'Angers.
Alors, la chronique lui est approuvée, c'est quelqu'un qui parle d'un bouquin qu'elle ou il a aimé. Et vous, vous allez nous parler de quel livre?
Alors aujourd'hui, je veux vous parler de la saga de La Maison de la Nuit, écrite par Pissi et Christine Cast, et parue entre 2007 et 2014 et publiée en France aux éditions Pocket Jeunesse.
Et ça parle de quoi?
Eh bien aujourd'hui, je veux vous inviter à plonger dans un univers qui est trop peu connu à mon goût. Mais plus qu'une découverte ou une redécouverte, c'est un véritable saut dans le temps pour moi. Parce que c'est une saga qui m'a accompagnée durant toute mon adolescence, qui m'a marquée d'une façon que je ne saurais expliquer et qui m'a aidée tout simplement à devenir la jeune femme que je suis aujourd'hui. Donc cette saga, c'est La Maison de la Nuit de Pissi et Christine Cast. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un univers très vaste et je vais essayer d'éclaircir tout ça. Donc l'histoire prend place dans un univers qui ressemble beaucoup au nôtre au premier abord. Il s'inscrit dans une Amérique contemporaine qui met en scène des jeunes qui tentent de se construire dans le milieu plutôt hostile des lycées et du microcosme adolescent. Néanmoins, dans ce monde, il y a une différence majeure, les vampires. Connus de tous, ils coexistent dans une paix toute relative avec les humains, même si la plupart préfèrent rester entre eux dans ce qu'on appelle les maisons de la nuit. Donc les maisons de la nuit, ce sont des écoles pour les futurs vampires. En effet, c'est une première distinction avec le folklore traditionnel. Ici, les vampires sont choisis par la déesse de la nuit Nyx, qui leur attribue un tatouage en forme de croissant de lune bleu saphir sur le front. Ces jeunes sont appelés novices et ils ont 4 ans pour appréhender la vie de jeunes vampires et espérer réussir leur transformation. S'ils y parviennent, ils vivent. Sinon, ils meurent dans d'atroces souffrances. Donc l'histoire débute par l'arrivée de la jeune Zoé Redbird à la maison de la nuit de Tulsa. Apeurée par la tournure qu'a pris sa vie, Zoé a un accident et se cogne si fort la tête qu'elle en perd connaissance. Elle a alors une vision réconfortante de la déesse Nyx qui lui transmet un mystérieux message. Je cite « Zoé Redbird, fille de la nuit, tu seras mes yeux et mes oreilles dans le monde d'aujourd'hui. Un monde dans lequel le bien et le mal luttent pour trouver un équilibre. Mais rappelle-toi, l'obscurité n'est pas toujours synonyme de mal, tout comme la lumière n'apporte pas toujours le bien. » Si cette dernière phrase vous semble énigmatique, eh bien c'est normal. Il s'agit d'un avertissement qui servira également de morale à l'histoire et qui sera reprise tout au long de la saga. Vous l'aurez donc compris, Zoé est la nouvelle élue. Elle devra donc combattre l'obscurité et les forces du mal pour espérer conserver l'équilibre du monde. Mais heureusement, elle ne sera pas seule et elle pourra compter sur de nombreux alliés, parfois très inattendus. Bon, s'il y a une chose qui me plaît dans cette œuvre, c'est bien la pluralité des sujets qui sont abordés. Déjà, on parle de mythologie, de légendes amérindiennes et de magie inspirée de la Wicca, alors tout de suite, ça me plaît. Malgré les libertés qui sont prises avec les différents mythes et folklores, celles-ci m'ont beaucoup apporté puisqu'elles sont porteuses de réflexions philosophiques sur le monde et de nombreux messages d'inclusivité et de tolérance. Et secondement, La Maison de la Nuit a une lecture très féministe et inclusive qui me plaît particulièrement. En effet, la société vampire, au contraire de celle des humains, est une société matriarcale. Ce sont les femmes qui dirigent au sein d'un grand conseil supérieur des vampires où elles sont élues pour leur sagesse et les dons que leur a accordés la déesse. D'ailleurs, rien que le fait que la divinité soit une déesse en dit déjà long sur cette société et sur les valeurs qui sont véhiculées. Mais loin de reproduire le schéma d'oppression que nous connaissons avec le patriarcat, c'est une société égalitaire et linéaire qui nous est décrite. Bon, j'aurais encore un million de choses à dire sur l'univers de la Maison de la Nuit qui, vous l'aurez compris, est encore un grand coup de cœur après toutes ces années. Mais malheureusement, comme toutes les bonnes choses, cette chronique a une fin. En tout cas, j'espère vous avoir donné envie de lire cette saga de Pissy et Christine Cast.
Eh ben, merci Astrid. Oui, ça donne envie. Dans cette présentation, vous avez parlé d'une saga. Alors, ça fait combien de volumes? Parce que saga, il y a plusieurs volumes, mais c'est normalement 2, 3, enfin...
Eh bien, là, il y en a 12 et 4 hors-série également.
Ah oui. Et... Vous l'avez lu combien de fois?
De nombreuses fois. Je ne pourrais pas compter, à vrai dire, mais très souvent, oui.
Alors, on entend bien votre enthousiasme dans cette lecture, qui est une lecture que vous avez eue adolescente, enfin, qui vous a fortement influencé. Maintenant, donnez-moi un argument, juste un argument, pour convaincre les auditeurs de se plonger dans la lecture de 12 plus 4, 16 volumes.
C'est très compliqué de donner qu'un seul argument.
Oui, mais il n'y en a qu'un.
Si je devais en donner qu'un, ce serait vraiment ce côté féminisme qui m'a beaucoup accompagnée et qui m'a fait évoluer dans ma réflexion et dans la façon dont je suis aujourd'hui et sur ma vision du monde. C'est des personnages féminins très puissants et forts et c'est ce que j'apprécie vraiment dans cet ouvrage.
Eh ben, merci Astrid. On rappelle le titre et l'éditeur de cette saga.
Donc c'est La Maison de la Nuit de Pissy et Christine Cast. Et publié en France aux éditions Pocket Jeunesse.
Merci Astrid, voilà un domaine de la littérature que moi-même j'ai pu explorer la littérature jeunesse, mais d'abord il montre qu'il y a des gens qui lisent et qui lisent avec passion. Mais entre les pages, eh bien c'est terminé. Alors un petit coup d'œil sur l'agenda. Demain jeudi 5 décembre à 20h à Villevêque, rencontre avec le poète Michael Gluck. Et c'est organisé par la Miel 49. Et puis, le jeudi 12 décembre, rencontre avec Myriam Nyon et Fabrice Collin à la médiathèque Toussaint, dans le cadre des Bouillons. Ils viennent de publier un album jeunesse, Mes chers amis, aux éditions Gauthier-Langros. Au cours de l'émission, vous avez entendu Phil Devaille qui a chanté Le Bas la Mer. C'est un extrait de son tout nouvel album qui s'appelle Le Bas la Mer. Et Chris Cornac qui a chanté Mon amour. Vous retrouverez toutes les informations et tous les liens relatifs à cette émission sur la page de Entre les pages, sur le site de Radio G à la date de l'émission. Le prochain rendez-vous, ce sera le mercredi 18 décembre à 17h. Avec qui ? Eh bien, tout n'est pas confirmé, mais je pense que c'est en bonne voie. Donc, vous le saurez prochainement. Dans quelques instants, ce sera le journal de 18h de RFI. Et puis, bien évidemment, le magazine Topette, animé par Pierre Benoît. Merci à vous, Astrid, d'être venue pour cette chronique. Bonne soirée.
Merci à vous aussi.
Merci Timothée Demeyer d'être venu dans ce studio. Bon retour à Nantes.
Merci, merci de m'avoir invité.
Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Et maintenant...
In 500 meters, go straight, and then go straight.
Entre les pages.